France Inter.
Mais oui, Denis Chessou, CO2 mon amour. Bonjour Denis, aujourd'hui vous êtes en Savoie, au bord du lac.
Bonjour Éric Delvaux. Eh bien oui, ça va être le lac du Bourget dans les Roselières. Je vais vous emmener avec des bottes. On vous retrouve à 19h. Bon après-midi Éric.
Merci, à tout à l'heure.
Votre ami Riton n'est pas là.
Ah non, il est à la grenouille.
À la grenouille.
CO2 mon amour.
Vous savez, à l'étang des Trois Curés. J'y vais. Une gaule et la ligne.
Mais prenez ma canne dehors et toutes montées. Attendez, je vais vous donner un hameçon.
Ah, pas besoin. Oh là là.
Ah bon?
Avec Denis Chessou.
Dites Pépé, on joue pas, on a une commande de 20 douzaines pour le grand hôtel demain soir.
Tu me connais pas, fiston. Tu sais pas qui c'est la reinette.
Sur France Inter.
Ah bah oui, évidemment, donc les enfants du Marais, là ça va être les enfants du lac du Bourget. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans CO2 mon amour, la nature qui chuchote à vos oreilles, avec aujourd'hui Éric Boisset à la technique, notre collaboratrice c'est Camille Blanès, et Xavier Pestugia réalise l'émission. Comment ça? Nous, les vaches et taureaux, nous n'aurons pas notre dose de pollution parisienne 2026 au Salon de l'Agriculture. Ah ben, dommage, parce qu'on aime ce lieu. On est toutes frisotées, permanentées, lustrées jusqu'aux cornes. Et Vlatipan, qu'à peine installée dans la bétaillère, eh ben, on nous dit de redescendre. Retour à l'étable avec les copines jalouses qui ricanent. Adieu vos vaches, il ne restera que les cochons et les couvées à apprécier. Et puis on aime se faire gratter la couenne, caresse, gloire, selfie et beauté, et vue à la télé. J'adore entendre les remarques intelligentes des visiteurs et des politiques plus démagos les uns que les autres en nous brossant le cul. Maudite dermatose nodulaire qui nous cloue sur la paille. Donc prudence, je dois remâcher tristement ma moulée en restant au pays. On est vacciné, bah c'est déjà pas mal. Mais la fiesta sera triste cette année. Allez, remets-moi un petit coup de blanc pour la peine. Du blanc, hein, j'ai dit, et pas du lait. Ce sera une saison sans foire à neuneux, sans médaille. Patience, donc, et rumination. Alors, cela dit, être un oiseau, est-ce mieux ? Ils sont épuisants quand même, les hommes, à s'infiltrer partout avec leur envie de tout bouffer, bousculant l'ordre des choses à leur unique profit, n'écoutant ni le vent, ni les bruits d'une nature qui hurle. Ah, ils vont bien finir par se retrouver seuls sur cette planète bleue, dans un monde virtuel taillé à leur mesure. Eh oui, car autour, ça déserte. Allez, un rapport de plus signé des chercheurs du Muséum National d'Histoire Naturelle nous apprend que les oiseaux se font plus rares dans les régions qui achètent le plus d'insecticides et de pesticides. Étonnant, non? Mais là, c'est prouvé. Et donc, hop, sur la pile, le rapport en attendant le prochain. Et qui les lit, les rapports? Qui en tient compte? Les oiseaux nous quittent, pas de place pour eux. Peu à peu, tout est pris, réservé sur Internet par les humains. De la cave au grenier, ils s'éloignent les oiseaux, puis disparaissent sans rien dire, en nous laissant les clés. Oh bah c'est tant mieux, hein, parce que ces bestioles, ça salit les voitures. Eh bah débrouillez-vous sans nous, hein, donc on vous aura prévenu, bande d'arrogants. Il reste bien quelques fous qui résistent et font de leur jardin, de leur toit, de quelques arpents de terre qu'ils cultivent, un rempart de leur corps, un refuge LPO. Ils réservent à la nature, aux oiseaux, d'indispensables abris, haies, méandres de rivières, marais, vergers de hautes tiges, vieux troncs en ombrelles, vous savez, sur des prairies fleuries à papillons. Refuge ultime avant l'extinction du vivant. Mais on veut la peau de ces maquisards. Comment résister à cette guerre chimique permanente, à l'inexorable avancée du pavillonnaire, pensée standardisée sur les territoires sauvages, aux parcs de loisirs, autoroutes, contournements, centres logistiques qui étalent leur béton sur la plaine, aux monocultures aussi qui assèchent les nappes, aux coupes à blanc industrielles qui ne rasent jamais gratis. Eh oui, bah faut nourrir la bête. Et que dire des lois qu'à grand-peine les humains s'écrivent à eux-mêmes et qui ne sont pas appliquées ? Grands enfants insouciants qui ne pensent qu'à jouer, pensons-nous un jour vivre seuls ? Au clair de la lune, mon ami l'oiseau, prête-moi tes plumes pour s'élever, penser autrement et soigner tes maux. Alors je vais vous offrir donc une jolie direction, donc on va partir en Savoie dans celle du lac du Bourget. Autant suspend ton lac, eh oui, vous allez voir. Thank you. Playlist de France Inter, c'était Parcels, signé donc Juliette l'Orphelin. Ah, ça y est, je le vois ce lac.
On est au sud du Bourget et on est au cœur d'une grande roselière, à la fois terrestre et aquatique, qui est complètement soustraite à nos camarades humains, mais sans qu'ils le sachent. C'est-à-dire que de part et d'autre, d'est en ouest, on vient visiter, il y a des observatoires de faune, il y a une plage, mais en fait ici, là, c'est 130 hectares, on ne se rend pas compte qu'on n'y a pas accès. Là, ce qui est extraordinaire sur le lac du Bourget, c'est le côté rive sauvage. C'est-à-dire qu'on a au moins un gros tiers de rivages qui sont encore sauvages. On voit là devant nous les tombants forestiers. Et en fait, ce lac du Bourget, il a réussi à garder ses rives sauvages, au contraire du lac Léman et du lac d'Annecy, où il reste très 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 peu de rivages qui ne soient pas soit construits, soit avec des routes, etc. Ah, oui. Quand on est au bord du lac du Bourget, on a toujours des rivages sauvages en face de nous.
Eh bien, c'était l'été pour dire « Autant suspend ton lac, oui, mais du Bourget ». Nous sommes face donc au plus grand lac naturel d'origine glaciaire de France. 18 km sur 2 km de large environ, ça nous fait 45 km², 85 mètres de profondeur moyenne. Alors, il a été formé au départ, il y a plus de 100 000 ans, hein, lors d'une ancienne glaciation par retrait du grand glacier alpin à la fin du Quaternaire. Donc, merci Lamartine pour la promotion des lieux. Mais oui, c'était un influenceur de l'époque. Le lac est dédié donc à la femme qu'il aime, Julie Charles, lors de son séjour en octobre 1816. C'était mieux qu'un texto. Hop, ma chérie, je t'envoie un poème signé Alphonse. Bon, la pauvre, elle est morte l'année suivante. C'était avant que la Savoie ne soit raccrochée à la France. Sur ses rives, les moines cisterciens du XIIe siècle ont eu du flair. Ils construisirent l'abbaye royale d'Hautecombe où reposent de nombreux souverains de Savoie, coin très sympa, bien coté pour passer son éternité. Alors, à l'ouest, regardez, vous avez le Mont du Chat. À l'est, vous avez la Chambotte et le Revard. Aix-les-Bains et sa très jolie Riviera sont à portée de vue. Alors, nous sommes donc au sud, dans une vaste roselière acquise par le Conservatoire du Littoral. André Miquet est responsable biodiversité et territoire du Conservatoire d'espaces naturels de Savoie. Donc, ce sont les gestionnaires de cette affaire-là. Franck Oron est un des délégués lac au Conservatoire du Littoral, donc acteur majeur parce que propriétaire, ils ont fait l'acquisition donc des lieux. Et Baptiste Mabou est donc garde du Conservatoire d'espaces naturels aussi de Savoie. Je vous l'avais dit, nous avions de grandes bottes et vous allez comprendre, c'était quand même beaucoup mieux.
Et ben là, on va sortir dans l'exutoire d'un étang, donc c'est-à-dire là où l'étang se vide. Bon, là, il est à sec, l'étang. Il faut quand même faire attention parce qu'il y a du bois flotté qui est ramené par le lac. Il y a des roseaux, donc faire attention aux yeux. Ouais. Et dans 20 mètres, on est dans le lac.
Ok, donc on a les 20 mètres de la peur, là. Bien.
Attention, il y a un trou.
Oui, il y a un trou, effectivement. Les yeux, pas choper des ronces, quand même.
Ça va, vous arrivez à suivre?
Ah oui, là, c'est la jungle, hein. Allez, c'est parti.
On y va.
Là, on est à la jonction entre la terre et le lac.
Ah, c'est pas mal, parce qu'on a du bleu, du blanc et alors du noir au-dessus de notre tête. C'est tout le charme, ça, Baptiste, en fait, du coin, quoi.
Oui, c'est que ça change assez vite, justement, surtout en été, avec les orages qui arrivent direct derrière la montagne du Chat.
Ouais, c'est ça.
On entend le vent dans les roseaux, c'est assez sympa. Les oiseaux commencent à bouger, donc il y a peut-être un orage qui va arriver, là.
Mais en même temps, ça crevait de beauté. C'est incroyable.
Et en général, on se souvient des sorties où on se prend un gros orage.
Oui.
Quand ça se passe bien, on se souvient moins longtemps.
Oh, bah, ce très joli vol noir qui ravit les pêcheurs, hein, c'est...
C'est le grand cormoran qui assure le show un peu toute l'année. C'est vraiment l'oiseau le plus actif et qui se voit le plus. Même si en abondance, ce n'est pas le premier de la liste.
Et là, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Alors là, à ras des nénuphars, on a les grandes libellules qui font presque 15 cm. C'est les anax, toute cette famille de grandes libellules qui nous ravissent de leur vol en rase-motte.
La jolie petite libellule pour étonner les oiseaux fait son numéro. Et de roseau en roseau, elle est là soudain qui papillonne juste au-dessus du ruisseau. Oh là là, oh là là, qu'elle est mignonne. Quand elle se mire dans l'eau,
et hop, ça repart. Et là, en fait, on marche au milieu des petits poissons.
Et là, on voit des alevins. Ce qu'on appelle les alevins, c'est les petits poissons, les bébés poissons de différentes espèces qui vont se servir des nénuphars pour se cacher ou des roselières pour se cacher et se nourrir.
Bon, la Baptiste, je te suis.
Oui. Ok, oui, ça vaut mieux. Attention, la ronce.
Alors, de la ronce, du roseau. Faire attention aux yeux, faire attention où on marche. Super. Ok. Et avec un magnéto à la main, c'est encore mieux. C'est pas un reportage, hein, ça s'appelle un challenge, votre truc, là. Voilà.
Ça se mérite.
Ça se mérite. Voilà.
Alors, la roselière, comment ça marche ? Ben, elle a d'abord un renfondement terrestre qui va permettre à ce végétal terrestre de venir très fort avec beaucoup de rhizomes et donc de coloniser plus ou moins profondément le lac du Bourget, anciennement jusqu'à 2-3 mètres de profondeur, hein, par exemple au Danube où il est en pleine forme. Et ici, malheureusement, le côté lacustre de la roselière a été complètement érodé et a quasiment disparu d'une moitié en un demi-siècle.
Qu'on rappelle le côté lacustre, définition du lacustre.
Le lacustre, c'est toute la partie de la roselière qui est en eau en permanence.
Les bienfaits de notre roselière, enfin, d'abord elle vit pour elle-même, hein, premier point. Mais après...
Voilà, nous, on n'a pas besoin qu'elle nous rende des services pour vouloir la protéger, puisqu'elle est avant tout l'habitat d'espèces naturelles. Ensuite, les arguments qu'on peut avancer malgré tout en sa faveur en termes de service, avec tous les guillemets, c'est premièrement de l'épuration de l'eau, hein, ça au niveau local sur le littoral, c'est évident, ainsi que sans doute un aspect ombrage, thermorégulation, etc.
Elle bouffe quoi ? Du nitrate, beaucoup ?
C'est ça, nitrate, phosphate, ouais. Elle adore, hein, jusqu'à un certain seuil. Ensuite, ça va être l'abri et la production de toutes les bases des chaînes alimentaires aquatiques, ouais. Et ça se matérialise premièrement par les alevins et toute la faune piscicole, hein, dont beaucoup d'espèces lacustres dépendent à leur stade juvénile de la roselière, comme abri. Et puis enfin, ça va être le lieu de nidification des grèbes, du fameux blongios nain, des rousserolles et de toute une quantité d'insectes qu'on commence à peine à inventorier.
Il y avait un blongios qui était juste derrière nous dans la roselière, en fait, qui devait nous entendre depuis tout à l'heure et qui était juste dans la langue de roseau derrière.
Mais viens, que j'ai entrevu rapidement. Moi, je viens t'interviewer. Ah, il est là. Oula, d'accord. Racontez-nous à quoi il ressemble à ce blongios, Baptiste.
C'est le plus petit héros qu'on a ici, qui va nicher dans les roselières. Les premières fois qu'on le voit, on est surpris, surtout quand il est posé par sa petite taille. Quand il vole, il fait moins petit. Il a une couleur beige qui est incroyable. Et en vol, on le reconnaît bien avec la bande noire. C'est un oiseau, j'en ai vu pas mal cette année, même autour des plages. En fait, il arrive à nicher, même des fois à quelques mètres des zones très fréquentées, du moment qu'il n'y a personne qui va le déranger. Et donc là, on est à bonne distance. Mais justement, il ne faut pas aller plus près, il faut juste se régaler en l'observant. Et moi, ça fait partie des choses justement sur lesquelles je continue à m'émerveiller quand j'observe des espèces pareilles. Ça motive à continuer à ne pas lâcher.
Qu'est-ce que tu fous là, toi ? Quelle heure il est ?
11h.
T'as dormi là ? T'as pas trouvé ta case ?
Eh si, mais mon collègue, un mec qui ronfle. Au bout de 2 heures, j'en ai marre de siffler assis sur mon lit, je suis venu dormir là. Alors, j'ai pas fermé l'œil de la nuit, j'étais attaqué par des bestiaux là.
Oui, ils sont plutôt inoffensifs ici.
Ah, tu pars, je vais te montrer mes bras, tiens, j'étais bouffé par les moustiques. Après ça, j'ai un lézard qui est rentré dans le sac. Je vais me faire rapatrier par un rang de assistance, moi ça va pas faire un pli, tu vas voir.
André Miquet, comment on fait cohabiter, on va dire, tout ce petit monde, c'est-à-dire le tourisme, la nature qui vit pour elle-même, les plaisanciers, etc.
Oui, nous, au Conservatoire d'espaces naturels, on s'est avant tout occupé de la gestion des milieux. Et là, on peut dire qu'aujourd'hui, le paysage naturel, il est dans son état un peu optimal. Et les zonages entre nature et activité humaine sont à peu près au point. Ouais. Le challenge, ça va être, en termes de milieu, de redonner au lac un peu plus de naturalité dans son fonctionnement, dans la variation des niveaux d'eau. Et puis, en termes d'usage, ça va être d'éviter qu'on continue de manière trop anarchique à développer la fréquentation et le nautisme et tout ce qui pourrait venir compromettre tous ces efforts de protection. Ouais. Même si aujourd'hui, les principaux cœurs de nature sont protégés soit par cet arrêté de protection de biotope où on est, soit par des piquets qui vont conforter l'interdiction de navigation.
Qu'on arrive à comprendre, quand on parle de hauteur d'eau, du trop, du pas assez, c'est quoi les enjeux ?
Alors l'enjeu pour un lac, si on veut qu'il puisse résister à ces problèmes de cicatrisation après des tempêtes notamment, ou de maladies, ou de tout phénomène, ça va être de lui donner la respiration annuelle, c'est-à-dire des variations de niveau qui vont lui permettre de se débrouiller pour se régénérer là où il faut, quand il faut. Depuis que ce lac a été régulé, c'est-à-dire maintenant plus de 40 ans...
Régulé parce que nous avons donc un barrage ou...
Oui, nous avons un barrage à l'exutoire du lac du Bourget dans le Rhône, hein, ouais. Qui permet une régulation du lac, qui s'est traduite à la fois par une perte des niveaux bas en fin d'été, une perte des niveaux hauts en printemps-été, c'est là surtout qu'on aurait besoin d'eau, et au global, une stabilisation du niveau qui fait qu'il y a plein d'effets pervers sur l'érosion, l'accumulation des déchets, etc.
Le lac du Bourget a quelque peu changé de physionomie ces dernières semaines. Son niveau a baissé.
Le plus grand lac naturel de France dévoile ses bords, d'ordinaire immergés. Une baisse artificielle du niveau d'eau pour permettre aux roseaux d'étendre leurs racines et ainsi leur donner de l'oxygène.
On a une surface de roseaux qui a été divisée par deux. Et donc du coup, les roseaux ne peuvent plus respirer naturellement et nous, on leur donne un coup de pouce.
Le lac se vide dans le Rhône grâce à ce barrage ouvert au maximum. Des millions de mètres cubes évacués en quelques semaines. Ce dispositif, déjà expérimenté avec succès en 2017, a permis de régénérer de nombreux roseaux et avec eux, la biodiversité.
Oh, dis donc, alors là, cadeau, petite cistude. Ouais, déjà assez solide d'ailleurs.
Oui, c'est une cistude de 3 ou 4 ans déjà.
Ah,
on a des reproductions chaque année, hein, suite à notre réintroduction qu'on a faite en 2000.
Ouais.
Et l'espèce est aujourd'hui réputée implantée et autonome sur le sud du lac du Bourget.
Ouais.
Et on continue notre programme de réintroduction maintenant au nord du lac du Bourget, en échappée vers le Rhône,
ouais,
dans lequel se jette le lac.
Baptiste Mabou, que l'on comprenne, on a une ceinture, on va dire, d'eau usée qui est tout autour du lac pour le protéger.
Oui, c'est ce qui a permis de sauver le lac, justement, parce que pour éviter que toutes ces eaux usées aillent dans le lac, donc
ouais,
il y a plusieurs stations d'épuration tout le tour du lac qui vont traiter l'eau. Mais cette eau sort de station d'épuration, donc est propre, mais peut-être pas suffisamment pour être relâchée dans le lac. Donc c'est cette fameuse colonne, ce fameux tunnel qui part à travers la montagne du Chat et qui est rejeté dans le Rhône.
Ah, ok.
Mais donc, c'est pas de l'eau usée, c'est de l'eau traitée par des stations d'épuration.
En fait, ce qui est assez génial, c'est que là-dedans, on peut boire la tasse, a priori, tout va bien. Quoi.
Voilà. Bah, une partie de l'eau potable vient du lac, on a un captage sur Aix-les-Bains.
Ouais.
C'est même le plus gros stock d'eau douce au niveau national.
Ouais, dites donc, là, est-ce qu'on ne sert pas aussi un peu de réserve pour les centrales nucléaires?
Oui, ben, cette énorme masse d'eau du lac du Bourget, on lui demande beaucoup. Hein. Déjà, elle nous sert de régulateur de climat. Hein, on ne sait pas comment on aurait froid l'hiver ou chaud l'été s'il n'y avait pas de lac. Et en plus, bon, on s'en sert pour l'eau potable d'une part, pour bien sûr tous les usages touristiques, et puis de plus en plus pour l'hydroélectricité, que ce soit sur des projets hydroélectriques, hein, gravitaires, ou pour le stockage d'eau pour le refroidissement des centrales nucléaires du Bugey.
Je voudrais remercier monsieur le député maire de Joie-la-Ville, qui a fait installer une usine de traitement de déchets nucléaires au village, que grâce à lui, il y a du travail pour tout le monde. Ma soeur Josiane, elle a changé de peau 3 fois. Monsieur Tron, surtout la peau bleue avec les yeux rouges.
Alors Baptiste, là je vois votre écusson de police de l'environnement, hein, parce qu'il n'y a pas que l'OFB, il n'y a pas que les gendarmes, il n'y a pas que les gardes de parcs nationaux, de réserves, etc. Donc il y a vous aussi au Conservatoire du Littoral. En quoi consiste votre travail, on va dire, de police de l'environnement là, ici?
Le travail de police de l'environnement, ça sera en grosse partie en saison estivale, de juin à septembre. Ça va être de la présence sur le lac et autour du lac. Ça va être en grande partie de la sensibilisation. Donc déjà,
oui, c'est de la pédagogie.
C'est principalement ça. Le but, c'est que les gens comprennent pourquoi est-ce qu'il y a des règles, d'expliquer, de la verbalisation quand c'est nécessaire.
Ouais.
Mais c'est principalement de la pédagogie pour expliquer un petit peu les différentes règles et les enjeux autour du lac.
Franck Auron, qu'est-ce qui vous émerveille aussi, qui quand même vous rend heureux et positif avec ce lac, quoi?
Ouais, je crois que c'est l'équilibre auquel on est arrivé aujourd'hui entre les parties urbanisées, hein, là où il y a des habitants à l'année, les activités touristiques avec le comité technique et au niveau des rivages, hein, donc ça c'est le travail du Conservatoire du Littoral. On arrive aujourd'hui à acheter les derniers morceaux sauvages pour les protéger définitivement. Et on a un équilibre. C'est-à-dire qu'on arrive, on a plusieurs opérations comme ça autour du lac du Bourget, où on, face à une vente avec un bâtiment et un grand espace naturel autour, où on négocie de rendre public, donc d'acheter, que le Conservatoire du Littoral achète la partie.
C'est le boulot numéro un, c'est l'acquisition, voilà, évidemment, du territoire.
Voilà, pour qu'il soit public et inaliénable, pour tous et pour toujours. Et du coup, on laisse l'acheteur acheter la maison, et on garde l'espace naturel sauvage. Et que, du coup, ça, par contre, l'espace naturel sauvage, ce ne sera pas le jardin privé de la personne, mais ce sera le jardin de tous.
C'est vraiment un coin extraordinaire, et aussi d'avoir eu ce privilège, hein, grâce au Conservatoire du Littoral et aussi au Conservatoire d'Espaces Naturels, d'être dans cette roselière assez incroyable. Restez avec nous parce qu'on va partir dans la partie nord dans quelques instants. On va aller du côté du Marais de Chautagne.
On est bien peu de choses, et mon amie la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis née, baptisée de rosée. Je me suis épanouie, heureuse et amoureuse. Au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant, j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On met bien peu de choses, et mon amie la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête, et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe. Déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier, et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses, et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon amie. Moi en rêve j'ai vu, éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien, ou bien si peu de choses. C'est mon amie la rose qui l'a dit hier matin.
Merci Françoise Hardy. On reste toujours sur le plus grand lac naturel de France, hein, parmi les mieux préservés de tout l'arc alpin. Je dis le plus grand parce que évidemment vous dites « Ah bah il y a la Clément !» Bah oui d'accord, mais bon, il y a 60%, c'est quand même du côté suisse et 40% du côté français. Ce qui fait que c'est quand même le Bourget. On voit quelques pêcheurs professionnels donc qui sont au loin. Et puis donc on va toujours se retrouver sur ces berges. À peu près vous avez 40% des berges qui affichent vraiment une virginité originelle, pourrait-on dire. Donc on passe du sud au nord du lac. On laisse Aix-les-Bains, le Revard, on arrive à Chindrieux, donc toujours en Savoie. Et là, on va rejoindre Marie-Claire Barbier, qui est maire de Chindrieux, en charge de l'écologie et de la gestion aussi du lac, comme vice-présidente de la communauté d'agglomération. Et là, il y a un truc très affectif aussi avec ce marais de Chautagne.
Alors ce marais, il a effectivement plusieurs fonctions entre le Rhône et le lac du Bourget, puisque quand le Rhône déborde, il inonde d'abord le marais de Chautagne, puis ensuite, éventuellement, toute cette eau file dans le lac du Bourget. Et ce marais de Chautagne, il sert du coup de filtre. Il a un rôle d'épuration des eaux du Rhône avant qu'elles arrivent dans le lac du Bourget. Et ce rôle d'épuration, il est extrêmement important parce que c'est un enjeu de dépollution. Et c'est pour ça qu'il est absolument nécessaire qu'on soit en mesure, nous, aujourd'hui, de tout faire pour que cette zone humide retrouve son vrai rôle de base d'épuration.
Alors ce qui est formidable, c'est que là en fait on est en train de marcher dans 60 hectares de ce qui était du maïs il n'y a pas encore si longtemps. Vous êtes bagarré, on ne va pas rentrer dans les détails, mais pour que ça devienne de nouveau un bien commun. Et là on va redonner donc une nouvelle fonction, sa fonction de marais à ce lieu.
Oui, effectivement, le problème de la culture du maïs, c'est qu'elle était peu compatible avec ces enjeux de préservation de la zone humide et de l'eau. Et donc, il y a déjà une dizaine d'années maintenant, nous avons fait le choix de ne pas renouveler le bail agricole, de telle sorte qu'on puisse engager les travaux de restauration de cette zone humide.
Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous êtes à la fois dans ce marais, puis aussi donc face à ce lac du Bourget, parce que vous avez été toute petite, vous aussi?
Ah oui, bien sûr. J'ai appris à nager dans le lac du Bourget. Donc, ouais. Vous voyez, c'est une grande histoire pour moi. Bah, quand on est dans le marais, on sent cette continuité. On sent qu'on est dans l'eau. D'ailleurs, si vous sautillez, ouais. On est sur de la tourbe. Hein.
Ouais, ouais.
Donc, si vous sautillez, vous sentez bouger. Et puis, ce marais, il a aussi... un enjeu très important sur le plan biodiversité. Si vous écoutez, vous entendez des oiseaux. Il y a des tonnes de batraciens de toutes sortes. Il y a des poissons. Donc on est vraiment sur l'enjeu de préservation de la biodiversité qui, de mon point de vue, a été longtemps le parent pauvre de l'écologie. Avant qu'on se rende compte qu'en fait, ça devrait être la priorité. Tant il est important de préserver l'ensemble de nos espèces végétales et animales pour nous préserver nous-mêmes.
Classe au grand air pour les enfants de l'école de Chindrieux. D'abord, écoutez la nature, les oreilles bien ouvertes, à l'affût des sons les plus imperceptibles.
J'ai entendu une voiture, une abeille qui était là, derrière moi. Après, j'entends encore des oiseaux.
Est-ce que on en entend plus ou moins que bon, quand on avait fait la séance au mois de janvier.
Plus.
Je suis d'accord, il y a plus d'oiseaux qu'au mois de janvier.
Ce projet d'éducation et développement durable, il a pour but faire en sorte que tous les enfants soient capables de reconnaître 30 espèces animales et 30 espèces végétales locales sur un lieu direct en lien avec leur école.
Et là, il y a de la sauge. De la sauge des prés, tu vois, mais elle est un peu cassée.
Cette expérience immersive à l'adresse des enfants est aussi un enjeu pour l'agglomération Grand Lac, qui est candidate au programme de l'UNESCO, l'homme et la biosphère.
Dites-nous concrètement comment ça se traduit ici, ce souhait de labellisation, man and biosphère, autrement dit homme, on devrait dire aussi femme et homme et biosphère. C'est un peu une redéfinition du développement soutenable, mais quelle est la traduction, Marie-Claire ?
Il n'y a pas d'obligation, donc ça veut dire que c'est un élan que l'on veut mettre en œuvre sous forme d'une charte dans laquelle, finalement, on va se poser la question à chaque fois qu'on lance un projet de savoir s'il est compatible avec les enjeux de préservation de notre espace environnemental.
Oui, je veux dire que ça, c'est un peu ça la nouveauté. Ce qui veut dire qu'il va y avoir des espaces de quiétude que l'on va prendre en compte et que l'on ne prenait pas forcément en compte pour la nature.
C'est ça. En fait, notre territoire de l'agglomération sera, entre guillemets, découpé sous trois zonages différents.
Oui.
Un zonage de protection forte qui existe déjà parce qu'en fait, depuis déjà 20-30 ans, il y a un certain nombre de législations, de réglementations avec certains espaces, comme ici, vous êtes dans un espace Natura 2000, par exemple, et on a d'autres enjeux comme ça sur le territoire. Et puis, autour de ces espaces, on va avoir des zones tampons dans lesquelles les activités humaines seront bien évidemment autorisées, mais il faudra qu'elles soient complètement compatibles avec les enjeux des espaces préservés. Et enfin, on aura le reste de notre zonage, où on retrouvera toute notre activité urbaine, foncier, circulation, etc. Parce qu'on vit quand même dans notre territoire, et dans laquelle eh bien, tout ce qu'on mettra en œuvre devra être conforme à cette idée que l'on aura dorénavant de réellement préserver notre environnement.
Marie-Claire Barbier, là je vais me tourner vers aussi la présidente du comité intercommunautaire d'assainissement du lac du Bourget. Il revient quand même de loin, donc il y a eu tout un travail humain, donc là c'est le côté positif, mais il revient quand même de loin ce lac.
Oh oui, puisque dans les années 70, en fait, du fait de l'augmentation importante de la population et puis du développement des activités industrielles, petit à petit, il y avait beaucoup trop d'intrants dans le lac, phosphore, azote, beaucoup de pollution, il y avait très peu d'assainissement organisé sur les collectivités autour du lac et il était en train de s'eutrophiser. Donc il y avait un développement d'algues vertes, les pêcheurs ont tiré la sonnette d'alarme, il n'y avait plus de poissons. Et donc là, les élus de l'époque, nos prédécesseurs, ont pris des grandes décisions puisqu'ils ont lancé d'abord des grands programmes d'assainissement collectif et ils ont décidé de creuser une galerie de 12 km entre le lac du Bourget et le Rhône, de telle sorte que tout cet assainissement épuré puisse s'évacuer directement dans le Rhône.
Où il y aura un brassage qui pouvait s'évacuer.
Ben oui, puisque le Rhône, il y a un débit important, donc ça se dilue très vite. Et dans tous les cas, ce serait diluée dans le Rhône, hein, puisque je rappelle quand même que le lac est l'exutoire, par le canal du Savière, à un exutoire qui est le Rhône. Donc voilà, c'est des travaux qui ont été réalisés dans les années 1980-1981. Et la diminution du phosphore, notamment, a été spectaculaire. Ça a été divisé par 4 à peu près. Et aujourd'hui, on a retrouvé... Alors, il y a eu aussi des grandes opérations d'alvinage pour regagner de la population de la Varette, d'Omble, Chevalier. Et aujourd'hui, le lac, il est beau, il est propre, il est sain. C'est notre lac.
Respire bien, décontracte-toi. Les genoux comme ceci. Tu respires bien, décontracté. Bien plié ici, hein, comme moi. Et hop, tu plonges.
Alors la petite fille qui a appris à nager dans le lac, vous êtes heureuse là.
Ah oui, 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 c'est sûr que... C'est aussi un des rôles importants d'ailleurs du lac aujourd'hui avec l'évolution climatique. Il a un rôle finalement sociétal qui consiste à être un espace où les gens peuvent se rafraîchir. Et je vais vous dire une chose qui me tenait à cœur depuis un certain nombre d'années et qui a été d'ailleurs mis en œuvre grâce à notre petit syndicat intercommunal de Chautagne, c'est que pour la première fois, des enfants de l'école de Chindrieux et de l'école de Ruffieux ont fait leur leçon de savoir nager, non pas dans la piscine d'Axéma, mais dans le lac, wow, directement à Châtillon. Et ça, c'est de les voir apprendre à nager dans le lac, comme moi j'ai appris à nager dans le lac il y a fort longtemps.
Ouais, c'est formidable.
C'est juste formidable.
Hop. Alors moi, je suis un petit gamin là, de votre agglomération. Bon, je suis un petit urbain quand même, mais j'ai quand même envie de découvrir la nature. Qu'est-ce qu'on me proposait ?
On est parti du postulat, si vous voulez, que les enfants de notre territoire devaient mieux connaître leur biodiversité et ne pouvaient pas quitter leur cursus en école primaire sans connaître au minimum 30 espèces animales et 30 espèces végétales. Et on a appelé ça le programme Fauna Flora 3030 et qui permet de proposer aux enseignants un programme tout au long d'une année et de mettre en œuvre une meilleure connaissance en allant sur le terrain pour les enfants des espèces qui vivent autour d'eux.
Alors ça, c'est assez génial. Et puis, ça fonctionne tellement bien qu'en fait, quasiment toutes les écoles ont envie de le faire. Hein.
Ah oui, on est un peu victime de notre succès. Alors forcément, il faut limiter, hein, mais on déroule dans le temps de telle sorte qu'on puisse, d'ici quelques années, avoir fait le tour de l'ensemble des écoles de notre territoire.
Alors ça, c'est fondamental parce qu'une fois de plus, aimer les choses, les faire découvrir, les nommer pour pouvoir après se les approprier et donc pouvoir protéger.
Et franchement, j'ai eu l'occasion de participer à une sortie scolaire avec les enfants de l'école de Chindrieux et de les voir tendre l'oreille en silence, repérer des bruits, les noter sur leur petit calepin. Ah voilà, je ne veux pas développer de manière trop importante, mais c'est vraiment... ils adorent. En fait, les enfants adorent.
Donc, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant ?
Eh bien, écoutez, de poursuivre de la meilleure façon qu'il soit, de continuer à vivre le mieux qu'il soit dans ce bel écrin.
Merci Marie-Claire Barbier, mais aussi merci à Arnaud Gauffier, qui est le directeur du Conservatoire des espaces naturels de Savoie, à Michel Delmas, qui en est le président, et à Lorraine Bellotti, de l'Office du tourisme de Aix-Lac du Bourget, ainsi que Explore Savoie. Merci à Anne-Laure Cochet d'avoir mixé ce reportage, à Camille Blanès et Xavier Pestugia, qui l'a formidablement colorisé, comme d'habitude. La semaine prochaine, Marie-Hélène Lafont, formidable écrivaine. Je suis avec elle dans le Cantal, près de sa rivière, qui est là, Saint-Ouen. Je vous retrouve sur LinkedIn, Blue Sky, Instagram. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, et aussi bien sûr l'application Radio France, une très bonne fin de dimanche.